5 de ce cours Microsoft Virtual Academy dans lequel vous apprenez à créer votre propre page HTML et à la mettre en style avec une feuille de style CSS. Je m'appelle Étienne Margraff, je suis évangéliste technique chez Microsoft France et vous pouvez me suivre ou me poser n'importe quelle question si nécessaire sur Twitter en utilisant @multa. Alors dans ce module, on va commencer à s'intéresser un petit peu plus en détail à la sémantique qui sont derrière les différentes balises qui sont disponibles en HTML, puisque, je le rappelle, hein, on l'avait vu dans le module 2 quand on avait créé notre page et quand on a créé la structure de la page, l'objectif du code HTML n'est pas de faire une mise en forme, même s'il y a un style par défaut qui est disponible et qui existe dans les navigateurs, le but n'est pas de faire une mise en forme, c'est simplement de décrire à n'importe quoi ou n'importe qui va lire notre code ce qu'on avait voulu faire. Donc quand on a une balise P, par exemple, on va commencer par ça, quand on a une balise P, c'est un paragraphe, et donc on explique au navigateur que sémantiquement, ou navigateur, ou un moteur de recherche, par exemple, que ça, c'est un paragraphe, et qu'il peut le traiter comme un paragraphe. Tout ce qui concernera la mise en forme, je vais beaucoup le répéter, ça, mais c'est très important, ça se fait dans une feuille de style qui est séparée, qui parfois est inclus dans la page HTML, mais c'est quand même plus fréquent que ce soit séparé, et qui va indiquer comment on veut que s'affiche graphiquement un paragraphe, ou un lien, ou ce genre de choses. Donc c'est vraiment deux choses complètement différentes. Dans ce module, on va s'intéresser principalement aux paragraphes, justement, mais plus généralement à tout ce qui va concerner, ou une grande partie de ce qui concerne du texte, comment on affiche ce texte, et qu'est-ce qu'on fait avec, qu'est-ce qu'on peut faire avec, et la gestion des liens aussi, qu'on appelle autrement également des encres dans une page HTML. Alors, je vais quitter le slide ici, et je vais me rendre dans Microsoft Edge et je vais aller prendre quelque chose qui doit devenir un réflexe chez vous qui est le fait d'aller sur w3.org donc vous avez directement le /tr/html5. Je me rends sur cette page là et alors vous vous rappelez, on en a déjà parlé un petit peu, hein, c'est une page qui contient les spécifications HTML, donc il y a tout un tas de choses qui existent avec comment on doit gérer HTML, les attributs ID, et tout un tas de choses, là on peut voir quelques exemples, l'élément HTML dont on avait bien parlé pendant le module 2, on va pas revenir dessus, les en-têtes, les titres, etc. etc. Et on retrouve tout un tas de choses, et notamment on trouve ici un élément qui s'appelle l'élément P. Alors si je clique dessus, c'est ce qu'on avait beaucoup utilisé dans le module 2, et l'élément P, c'est un paragraphe, donc vous voyez, ça va nous expliquer comment on va faire pour l'utiliser, ça va nous expliquer ce que ça doit représenter, donc ça représente un paragraphe, et si je clique sur paragraphe, donc faut pas hésiter à se promener un petit peu dans cette page-là pour comprendre le fonctionnement des choses, et c'est beaucoup mieux d'aller voir là-dedans, de le lire, c'est en anglais, mais c'est généralement très simple à comprendre, et de toute façon, la majorité des contenus techniques sont généralement en anglais, n'hésitez pas à utiliser, il y a Bing Translation par exemple qui permet de traduire, si vous ne comprenez pas une phrase, mais globalement c'est assez simple à comprendre. Donc là on voit qu'un paragraphe c'est généralement utilisé pour définir une phrase ou un texte complet. On peut imaginer ça comme ce qu'on a dans un livre par exemple, hein, ça paraît évident, mais dans un livre on a des paragraphes, ces paragraphes ils sont affichés d'une certaine manière, et ils sont affichés de cette manière là pour qu'on comprenne qu'ils sont groupés ensemble, toutes ces phrases là, et ça a une signification particulière, c'est un ensemble de phrases qui veulent dire quelque chose, donc on va les grouper dans une balise P, donc dans un paragraphe en particulier. Ce qu'il faut bien comprendre, vous voyez qu'il y a des exemples toujours ici, donc là si je zoome un peu là-dessus, on a une section, on reviendra dessus un petit peu plus tard, et puis on a un paragraphe qui se trouve ici, vous pouvez le voir, qui est très simple, il n'y a qu'une seule phrase à l'intérieur. Et on peut faire des choses un petit peu plus compliquées, donc si je descends un petit peu ici, vous voyez, donc là j'ai un paragraphe qui est inclus dans autre chose, dans un élément d'elle, et je voulais vous montrer voilà, un exemple à cet endroit-là. On a ici un paragraphe qui commence là, et qui se termine avec un slash p à cet endroit. Donc, à l'intérieur de ce paragraphe, comme vous pouvez le voir, on n'a pas uniquement du texte, on a une autre balise, en l'occurrence là c'est une encre, on reviendra dessus plus tard dans ce module, mais ce qu'il faut bien comprendre ici, ce que je veux mettre en avant, c'est qu'un paragraphe c'est également un élément HTML qui permet de grouper d'autres éléments qui sont en rapport avec du texte. Donc, quand on a un bloc de texte, un bloc de phrases, un ensemble de phrases qui contient des liens hypertextes pour aller à un autre endroit, ou qui va contenir un élément HTML qui permet de faire de mettre en avant un mot par rapport à un autre, on en parlera également, et bien tout ça on va le mettre dans le paragraphe, puisqu'en fait on va pas le séparer, on va pas commencer un paragraphe, faire le lien, puis faire un autre paragraphe par la suite, pour continuer la suite du texte. Donc on peut les grouper, on peut mettre des choses à l'intérieur d'un paragraphe qui sont différentes du texte. Et par exemple, dans ces différents éléments qu'on a, puisque vous avez vu que par défaut, on a un retour à la ligne qui se fait après un paragraphe, ce qu'on peut changer bien évidemment, mais on a ça par défaut. Quand on veut définir que des éléments vont changer à l'intérieur, enfin qu'on va avoir une autre signification qui va changer en fait entre deux éléments, si je reviens dessus, hein, on a la possibilité d'utiliser br. Alors si je recherche ici the br element, alors il faut que je revienne en arrière, j'ai oublié ça puisque je suis dans la section spécifique des paragraphes, donc, je vais revenir sur ma page principale, voilà, et puis je vais refaire cette recherche, et donc là vous voyez que ici, si je cherche the br element, qui est en fait un line break en anglais, un retour à la ligne, puisque je reviendrai dessus un petit peu plus tard pourquoi ça s'appelle comme ça. Donc on a les text level semantic elements. Donc là-dedans on va retrouver plein de choses qu'on va étudier au fur et à mesure, hein. On va pas tous les voir puisqu'il y en a beaucoup, mais on va voir les principaux, et on retrouve notamment le br à cet endroit-là. Et ce br en fait, et tous ces éléments qui sont à côté, permettent de donner, d'ajouter de la sémantique à notre page. J'insiste sur le mot sémantique encore une fois puisque c'est pas de la mise en forme. Historiquement, dans les versions précédentes d'HTML, certains de ces mots étaient définis clairement pour faire de la mise en forme. Il y a eu un choix qui a été fait par la suite de réellement séparer l'objectif du point HTML, du code HTML, l'objectif du CSS. Donc le point HTML, lui, son rôle, c'est réellement de définir la structure de la page, et pas du tout la mise en forme. Donc tous les éléments qui existaient déjà continuent à exister, par contre leur signification a changé. Donc par le passé, hein, si je clique sur br, hein, l'élément br qui est ici, voilà, cet élément-là, il avait pour objectif de définir un retour à la ligne, c'est ce que ça fait par défaut bien sûr, et en fait c'est un des rares éléments qui continue à faire de la mise en forme, entre guillemets, mais on va l'utiliser dans un cas particulier. Donc si jamais on a du texte, un très très grand texte, et qu'on veut le découper en plusieurs paragraphes, il ne faut bien évidemment pas mettre ce texte dans un seul paragraphe et puis faire des BR quand on a des retours à la ligne. Là, on va faire plusieurs paragraphes différents, on l'a vu dans l'exemple dans le module 2, vous allez le revoir dans un exemple dans ce module-là. Par contre, quand dans un seul paragraphe, on a une seule signification, très bon exemple ici, une adresse, je vous mets un petit peu, donc là on a une adresse de quelqu'un, avec plusieurs éléments. Une adresse, c'est un seul élément, c'est un seul groupe, donc ça a bien lieu d'être dans un seul paragraphe, on ne peut pas en faire plusieurs. Mais par contre, on a l'habitude visuellement de voir une adresse avec des retours à la ligne pour séparer les éléments. Il y a la rue, il y a le pays, il y a le code postal, ce genre de choses. Et donc là, vous avez un bon exemple où vous avez un paragraphe ici qui démarre à cet endroit-là et puis qui s'arrête ici, donc ça en est bien un seul, avec des retours à la ligne en utilisant la balise BR, le tag BR justement, qui va permettre de simuler ces retours à la ligne tout en gardant la cohérence de l'adresse qui est un seul élément et qui se trouve dans un seul paragraphe. Donc ça c'est très important également. Je vais revenir en arrière ici, et puis on va naviguer dans certains éléments. Alors je vous disais tout à l'heure justement qu'il y avait des éléments qui étaient auparavant de la mise en forme. Je vais prendre l'exemple de BR. Alors je vais faire CTRL-CLIC pour l'ouvrir, et puis je vais prendre STRONG également, puisque vous allez voir qu'il y a un lien entre les deux. Voilà, ici. CTRL-CLIC. Donc, l'élément B, si on vient à cet endroit-là, donc ça représente un groupe de texte pour lequel on veut attirer l'attention de l'utilisateur, du lecteur. Donc on a dans un paragraphe P, à l'intérieur, on a un mot ou un groupe de mots qui sont importants et qu'on veut que le lecteur retienne particulièrement, par exemple. Et en fait, le comportement par défaut est celui pour lequel ça a été pensé à l'origine. Donc dans les anciennes versions d'HTML, B était utilisé, B veut dire bold, enfin vient de bold en anglais qui veut dire gras, mettre en gras du texte, et vous voyez une utilisation ici, hein, c'est très simple, on a un paragraphe B slash B, ce mot-là sera mis en gras directement, on avait utilisé ça dans le module 2, vous pouvez l'essayer dans une page HTML si vous voulez voir le résultat, mais ça sera mis en gras, mais il faut bien toujours garder à l'esprit que ce qui nous intéresse ici, c'est pas le fait que ça se mette en gras, c'est le fait de décrire que ce mot-là, dans ce paragraphe, est plus important que ceux qui ne sont pas entre ces deux balises-là. Donc, le mot barbinator, par exemple ici, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, mais peu importe, ce mot-là est plus important que le mot component, ce qui est là, puisque lui n'est pas mis en gras. Et donc, il sera mis en avant pour le lecteur. Par défaut, ce sera du gras, Mais via une feuille de style CSS, on pourrait très bien dire que c'est pas en gras, mais par contre que c'est rose, ou que c'est bleu, ou que il s'affiche en énorme. On peut modifier son comportement. Donc il faut vraiment comprendre ça, et j'insiste beaucoup dessus, puisque c'est très important. On a une autre manière de définir l'importance d'un mot, c'est strong, qui veut dire fort du coup en anglais, qui, contrairement à B, donc il y a une petite différence. Moi j'ai tendance à utiliser uniquement strong et pas B, parce que sinon on peut un petit peu se perdre dans les deux, donc il vaut mieux en choisir un et rester avec celui-là. Mais la notion, la petite subtilité qui est donnée, c'est que c'est pas simplement un mot qui est plus important que les autres, c'est un mot qui est plus important et qu'on doit lire en premier. C'est-à-dire que quand on utilise B, c'est on a une phrase complète, on la lit, on lit cette phrase, et puis il y a certains mots qu'on doit retenir à l'intérieur qui sont qui ont une importance supérieure. Par contre, le strong est plutôt défini pour dire que c'est ce mot-là ce mot-là qu'on doit lire en premier, qu'on doit réellement retenir. La phrase en entier n'a pas forcément d'importance. Donc la notion est très très compliquée. Il y a vraiment la subtilité est très petite. Et donc moi, j'ai tendance à utiliser uniquement strong et pas du tout la balise B, parce que c'est beaucoup plus simple ensuite à comprendre. Alors, on a d'autres cas où on a ce genre de problème, on a ce genre de choses, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc je vais ouvrir la balise marque cette fois-ci. Donc cette balise-là, on regarde un petit peu, alors à chaque fois il y a toute une explication, on pourrait regarder tout le détail. La balise marque, elle a tendance à définir un élément par rapport à un contexte particulier dans la lecture de la page. Donc je vais vous donner un exemple très simple que vous pouvez comprendre. Quand vous cherchez dans une page, si par exemple ici je cherche, c'est un bon exemple, mais je vais chercher Marc pour revenir dessus. Voilà, si je cherche Marc, vous voyez que ça a été mis en évidence. Alors là, c'est un petit peu différent, c'est le navigateur qui le fait, mais vous pourriez très bien faire en sorte que dans votre page, je vais enlever le E pour aller à un autre endroit, voilà, je vais recliquer sur Marc Element pour y retourner. Vous voyez ici que j'ai fait une recherche, j'ai cliqué sur un élément et que ça se met bien en évidence. C'est réellement très simple, hein, puisque vous allez, à un moment donné, soit tout le temps, soit de manière dynamique, avec du code généré côté serveur, parce que là la page hein, elle est statique, mais à un moment donné elle peut être très bien générée côté serveur avec de l'ASP.NET, du PHP, du Node.js, enfin tout ce que vous voulez, ou modifié en JavaScript qui sera disponible dans un autre cours, qui sera également créé sur MVA, Microsoft Virtual Academy. Et donc on peut modifier, rajouter cette balise sur certains éléments pour les mettre en avant et indiquer que, généralement, indiquer que ces éléments-là, on doit les mettre en avant et faire en sorte que les gens les voient d'une certaine manière, parce que par rapport à un contexte particulier, c'est important. Donc, encore une fois, j'utilise beaucoup c'est important, c'est important, c'est important, c'est la même chose que. J'ai utilisé ce mot pour B et pour strong, ou plutôt pour strong uniquement, on va rester sur celui-là seulement. Marque, ça donne une signification différente, une signification particulière. C'est quelque chose qui sera exploité par les moteurs de recherche, par exemple, ou des choses de ce type-là. Donc on a d'autres éléments également, et on va revenir un petit peu sur ces fameux doublons, entre guillemets, qui peuvent être vus comme des doublons. Et pour ça, on a l'élément I, que je vais récupérer, puis on a l'élément EM, qui est un petit peu plus haut, voilà, qui se trouve juste là. C'est par ordre alphabétique ou d'importance plutôt. Alors l'élément i, lui, il existe depuis très longtemps. Donc cet élément-là, son objectif, c'était à l'origine de faire de la mise en forme. Je vous le dis parce que vous le verrez peut-être à certains endroits. Et en fait, i vient de italique, qui permet de mettre en italique du texte. Ce qui a changé un petit peu, c'est que finalement, le comportement par défaut à l'affichage, c'est bien de l'italique. Par contre, quand on l'utilise, ça ne doit pas être ça notre objectif premier. Notre objectif, ça doit être d'indiquer que quand on lit ce texte-là, on a une différence dans la manière de le dire. Donc on va dire, c'est la même manière que quand je fais une phrase. Si par exemple je parlais de l'élément i que je veux mettre en avant élément, je vais dire, je vais faire une phrase du type, c'est très important de comprendre l'élément i. Et donc le fait de faire ça, d'avoir une différence de prononciation parce que c'est important dans la phrase ou parce qu'il faut mettre un petit peu en avant ce mot-là, on va utiliser la balise i. Cette balise-là, ou ce tag-là, il est, dans mon esprit à moi, remis en cause, ou en tout cas, moi je l'utilise plus, j'utilise em à la place, puisque cet élément em, il vient de emphase, pour mettre l'emphase sur un élément particulier, c'est le début d'ailleurs de ce mot-là, hein. Et en gros, on a imaginé exactement la même chose. Mais on a le principe étant de dire que c'est ce qui est écrit ici, hein. Donc, tac, tac, tac. Donc, c'est quelque chose qui va permettre de donner une information particulière par rapport à tous les éléments qui sont à côté. Et donc, en gros, c'est quelque chose qui permet de mettre en avant un mot particulièrement et d'avoir le comportement que je vous ai donné tout à l'heure. Alors, on a d'autres éléments également. On a U, que je vais trouver, qui est juste là, voilà. Je prends U et puis je vais en prendre d'autres tout de suite, comme ça on les aura. Donc, on va avoir U et small. Voilà. Alors, donc U, le principe de U, c'est à l'origine, encore une fois, c'était quelque chose qui était utilisé pour souligner, donc au sens réellement de texte. Donc on a une décoration, je souligne quelque chose dans mon texte, vous pouvez le voir d'ailleurs ici, hein. Ça a ce comportement là par défaut, ou celui-là, vous voyez que des mots sont soulignés particulièrement. Et généralement c'est utilisé, c'est un exemple qui est donné là, hein, c'est utilisé pour définir un nom propre. Donc s'il y a un nom propre d'une manière ou d'une autre, on va le définir dans ce U, et qui ensuite permettra d'avoir un style particulier qui sera appliqué à ça, si besoin, mais surtout ça permettra à une liseuse automatique pour les personnes qui ne peuvent pas forcément voir, qui sont malvoyantes, ou à un moteur de recherche ou à un humain de bien comprendre que l'objectif c'était de définir ce type de choses. Et c'est là où on voit un petit peu toute la complexité, ou pas la complexité, mais peut-être la complexité qu'ont eu les gens qui ont défini HTML5, de redéfinir un petit peu le comportement de ces éléments qui étaient précédemment définis pour faire de la mise en forme, puisqu'ici, ils expliquent quand même que dans la plupart des cas, c'est quand même mieux d'utiliser un élément comme EM, qui permet de mettre l'emphase. Donc dans tous les cas, je vous conseille d'utiliser EM, et de faire de la mise en forme en utilisant les sélecteurs, comme on le verra en CSS un petit peu plus tard. Alors on en a un élément différent qui s'appelle small, qui, encore une fois, hein, à l'origine était là pour mettre en petit le texte, mais il ne faut pas le voir comme ça, puisqu'en fait, le principe, c'est d'avoir du texte qui a une importance beaucoup moins élevée que le texte à côté duquel il est. Donc on a, par exemple, dans une phrase, où on a ici un très bon exemple, d'ailleurs, pas la peine de prendre forcément une phrase, on a ici une liste, qui est une definition list, dont on parlera un peu plus tard dans ce cours, et vous voyez que là, manifestement, c'est... ici, c'est une liste de chambres dans un hôtel avec le prix. Donc on a le prix qui est là. Et puis à côté, le prix est l'élément le plus important. Et à côté de ça, un élément moins important qui est ce que ça inclut. Donc ça inclut le petit déjeuner par exemple, et puis il y a des choses qui ne sont pas incluses à l'intérieur. Donc c'est réellement l'objectif, et c'est un très bon exemple ici, puisque on a comme objectif de dire j'ai un élément important, où tout est important, puis il y en a certains qui sont moins importants. Par défaut, ça va s'afficher plus petit. Mais on pourrait très bien le faire différemment. On pourrait par exemple mettre tout le texte en gras, sauf celui-là qui ne sera pas en gras. Ou tout le texte en noir, sauf celui-là qui sera un peu plus grisé, pour que ça soit moins important par exemple. Donc c'est... puis on a un dodo d'exemple ici, avec dans un paragraphe, on a du texte qui est moins important. On a ici la même chose avec un paragraphe avec une information et un lien, comme vous pouvez voir ici, qui est moins important. Et puisqu'en fait, c'est... la source de l'information qu'on est en train de citer, etc., etc. Donc small est réellement utilisé pour définir une information qui a une moindre importance par rapport à d'autres. Alors on termine notre petit tour d'horizon en utilisant, en allant regarder deux choses. Alors la première, je vais les chercher comme ça, donc cite, the cite element, qui se trouve ici, voilà, donc il était là mais je ne l'avais pas vu. Je vais l'ouvrir, et puis je vais ouvrir également block quote. Alors, block quote qui doit être situé... Alors, il n'est pas là. Donc, il ne faut pas hésiter à chercher, hein, parce que sinon... Ou à lire d'ailleurs tout, hein, mais si besoin. Donc, block quote element. Je vais cliquer comme ça, je vais revenir, je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet. Voilà. Alors, on va passer sur site. Donc, l'objectif de site... c'est, comme son nom l'indique, de citer quelqu'un, ou une organisation, une personne, ou un ensemble de personnes. Et donc, le mieux, c'est d'avoir un exemple. Hein. Ici, on en a un très bon. Vous voyez qu'on a un paragraphe avec quelqu'un, qui apparemment dit ça, qui est cité sur Twitter, qui parle d'HTML5, et la citation en tant que telle, elle est dans un bloc cite. comme vous pouvez le voir ici, ça démarre là et ça se termine ici. Donc ça a un élément de, qui permet de grouper, comme le paragraphe également. Donc on peut avoir à l'intérieur des encres, du strong, du EM, du small, tout ce que vous voulez. On peut même avoir des paragraphes s'il y a besoin pour cette citation. Et donc ça aura pour effet d'indiquer au navigateur que ça c'est un bloc qui concerne une citation particulière. Peut-être que dans un moteur de recherche, quand on fera une recherche, il aura vu que c'est une citation et il le marquera comme tel, il indiquera qu'il y a une citation à l'intérieur potentiellement. Ça pourrait être utilisé par un logiciel automatisé qui va aller chercher sur un site web toutes les citations et qui va aller parcourir ce site et chercher ces citations là, et il est aidé par ce terme sémantique HTML5. Et au final, ça nous permettra aussi d'avoir une mise en forme particulière, peut-être de le mettre en italique et puis de le décaler un petit peu à droite ou faire ce genre de choses-là directement, puisque ce sera plus simple de le retrouver, de mettre en forme uniquement ces citations-là d'une certaine manière. Et puis on a également, alors on l'avait à cet endroit-là, on a le bloc quote qui lui a pour objectif de grouper justement une citation avec d'autres éléments, peut-être plusieurs citations, ou peut-être la citation et puis son auteur, ou ce genre de choses-là. Et donc si on regarde, il y avait l'exemple tout à l'heure, hein, mais on peut très bien avoir un bloc quote qui démarre ici, qui se termine là, qui permettra d'indiquer que c'est un ensemble de choses qui concernent des citations, et on peut en avoir plusieurs à l'intérieur. On n'est pas obligé, mais on peut mettre une citation dedans. Donc, vous voyez ici, on a un cite à cet endroit-là, ce n'est pas le cas dans cet exemple-là, mais ça fonctionne quand même très bien. Et ce qui est important de comprendre, c'est qu'on va retrouver là-dedans, on peut retrouver potentiellement un pied de page, un footer, un header, ce genre de choses. On reviendra dessus un petit peu plus tard, mais on peut retrouver tout ça à l'intérieur d'un bloc quote. Et donc ça permet réellement de définir à partir de là, d'un endroit à un autre, tout ce qui est dedans, c'est une citation, ou ça concerne une citation, ou plusieurs citations potentiellement. Voilà. Encore une fois, certains de ces éléments, donc on a vu hein, le bloc quote, puis tous les éléments de texte qui sont ici, les text level sémantiques ici, tous ces éléments-là n'ont pas forcément un rendu, ou en tout cas n'ont même pas forcément le même rendu dans les différents navigateurs. Puisque, je vous ai dit, hein, le but n'est pas de faire de l'affichage, j'insiste beaucoup dessus, j'en suis désolé, mais c'est très important. Donc ça permet de faire, principalement, de définir la page et de définir sa structure de cette page-là. Et donc, ils n'ont parfois pas de comportement. Et c'est tout à fait normal, il faut quand même les utiliser parce que ça permettra, je me répète, à des moteurs de recherche, aux navigateurs, de comprendre ce que c'est, et peut-être que dans un futur plus ou moins lointain ou plus ou moins proche, on aura certains navigateurs qui permettront directement de dire, bah tiens, dans ce site web, vous avez tant de citations, tu peux cliquer dessus et hop, tu arrives directement au bon endroit. Donc c'est réellement, il faut réellement voir ça. On est au tout début, HTML5 a réellement apporté ces notions sémantiques, plus que ça n'a été en tout cas par le passé, et donc c'est réellement important de les respecter pour qu'ensuite on puisse s'appuyer sur ça le jour où tous les sites web auront bien utilisé correctement ces sémantiques. On pourra s'appuyer sur ça pour avoir un web qui sera globalement plus facile d'accès et qui sera plus simple à la fois pour les personnes qui sont malvoyantes par exemple, ou pour différents logiciels pour trouver de l'information plus simplement. Alors, on va maintenant passer à une autre information qui est importante, c'est les encres. Alors pour ça, vous avez dans ce que vous avez pu télécharger avec le cours, vous avez un répertoire, leçon 5, dans lequel vous avez un sous-répertoire, puis des fichiers HTML, ce genre de choses. Alors, on va l'ouvrir. Vous pouvez l'ouvrir dans ce que vous voulez. Encore une fois, moi j'utilise Visual Studio Code, que vous avez installé si vous avez suivi les premiers modules et si vous aviez envie de l'utiliser, qui va nous permettre, donc en faisant un clic droit Open VS Code sur un répertoire, de visualiser ce qu'il y a dans ce répertoire, c'est les différents éléments, et du coup d'y avoir accès et d'avoir un éditeur de texte un peu plus poussé qu'en Notepad, avec de la coloration syntaxique notamment, comme on peut le voir à cet endroit-là. Donc là-dedans, qu'est-ce que c'est que ce texte-là? C'est très très simple, on a à l'intérieur de Visual Studio Code, on retrouve un certain nombre de choses. Vous pouvez voir, on a des paragraphes ici, on a tout un tas d'éléments qui vont nous permettre de visualiser une page. Si j'affiche cette page-là dans Edge, je vais à l'intérieur ici, que je fais un clic droit là-dessus, ou même d'ailleurs je double-clique, elle va s'ouvrir directement dans mon navigateur. Je vais prendre Edge, ici, on peut choisir celui qu'on veut. Ça va ouvrir ma page, et vous voyez qu'il y a des paragraphes. Ici, il y a une mise en forme, en tout cas, il y a une définition qui a été faite. Le style par défaut s'applique, et donc c'est un peu plus gras, et puis le style par défaut s'applique sur les paragraphes, donc il y a des retours à la ligne. Donc c'est vraiment une page très simple. Et ce qu'on va faire, c'est que on va rajouter quelques encres. Alors vous voyez ici que on a défini déjà un H1 qui permet d'afficher ce qu'on voit ici. Donc c'est le titre que vous voyez en haut ici, encore tags. Et il y a à l'intérieur du texte, c'est pas la peine de le lire, c'est ce qui s'appelle lorem ipsum qui est utilisé partout sur internet, pas que sur internet mais surtout dessus, pour avoir du contenu quand on fait soit un test, soit quand on a une page qu'on est en train de définir mais on n'a pas encore le contenu, ça nous permet d'avoir du texte déjà à l'avance pour voir le résultat que ça donnera visuellement, même si le texte n'est pas le bon. Alors pour définir une encre, donc je vais d'abord créer un paragraphe que je vais fermer automatiquement ici, et puis à l'intérieur de ce paragraphe je vais définir mon encre. Une encre ou un lien hypertexte, c'est la même chose, hein, c'est la balise A. Et donc A, ça s'appelle exactement comme ça, précisément comme ça, parce que justement c'est une encre. Alors, elle a une propriété, donc vous vous rappelez, on avait vu ça dans les premiers modules, hein, une propriété c'est quelque chose qui se met dans la balise, dans la définition de la balise ouvrante, là où on définit qu'on commence à avoir cet élément-là. Et puis on va le mettre entre guillemets, on peut mettre soit des guillemets simples, soit des guillemets doubles, peu importe lequel vous choisissez, quand vous en avez choisi un, restez cohérent et choisissez toujours le même. Donc moi j'utilise des doubles côtes. Et à l'intérieur de ça, on va définir un lien. Alors on peut définir un lien absolu, donc qui est vers une adresse qui se trouve quelque part, sur internet par exemple, donc je vais aller sur Bing. Et puis c'est tout ce qu'on a à faire. La dernière chose qui reste, c'est qu'on va fermer la balise A, et entre la balise ouvrante et la balise fermante, on va mettre notre texte, qui sera le lien vers lequel on veut aller. Donc je vais ici indiquer que c'est bing.com, donc je mets le texte que je veux, hein. C'est pas obligatoirement le même, et si je retourne dans ma page et que je la rafraîchis, voilà, elle arrive, j'ai ici un lien bing.com, vous pouvez le voir, avec la mise en forme par défaut du navigateur, et quand je clique dessus, je me retrouve sur bing.com directement et je peux faire mes recherches. Donc c'est exactement la même chose, je reviens en arrière, je retourne sur ma page. Si maintenant je vais un petit peu plus loin là-dedans et que je veux naviguer dans une page qui se trouve dans mon site. Alors vous voyez ici, dans le même répertoire, j'ai une page qui s'appelle another.html, qui est une autre page, another en anglais, hein, bien évidemment. Donc je vais créer un nouveau paragraphe, et puis je vais rajouter une encre, href, égale, et là-dedans, plutôt que de mettre un lien absolu, alors je vais déjà fermer ma balise, moi je fais toujours ça, voilà, plutôt que de faire un lien absolu, je vais mettre un lien relatif. Relatif à la page dans laquelle on est. Parce qu'en gros, quand on est dans cette page leçon 5, on est à un endroit dans un répertoire, soit sur mon PC, soit dans un site web, et le serveur web dans lequel on héberge notre page sait gérer ce genre de problématique. Et donc on peut lui dire, tout simplement, je veux que tu ailles donc dans le même répertoire, j'indique pas de répertoire, chercher la page another.html. Et donc, je vais ici indiquer another, voilà, peu importe le texte qu'on veut, avec un point d'exclamation. Et puis je vais retourner sur ma page ici, je rafraîchis, je vois que j'ai mon lien qui apparaît à cet endroit-là. Vous voyez, hein, si je zoome un petit peu, je le vois ici. Et puis si je clique dessus, je vais me retrouver sur cette page-là, qui est la page Another, qui, si on regarde un petit peu, hein, j'avais déjà préparé à l'avance, qui contient un lien qui revient vers leçon5.html. Donc si je clique sur ce lien-là, ça m'évite de faire un bac à cet endroit-là, je vais me retourner à ma page leçon5.html sur laquelle je suis en train de travailler. Alors, je retourne dans mon code leçon 5, ici, et puis je vais, alors on peut même copier-coller hein, d'ailleurs, hein, sans aucun problème, je vais copier ici l'intégralité de ma ligne, voilà, puis je vais la coller en bas, et cette fois-ci on va faire un truc, quelque chose qui est un petit peu différent, c'est qu'on va aller dans un sous-répertoire, puisque là j'ai cherché dans le même répertoire, maintenant je veux un lien relatif dans un sous-répertoire. Alors pour faire ça, je vais simplement lui indiquer que cette fois-ci, bah, j'ai besoin d'accéder à un répertoire, et puis je vais le faire de manière très simple. Hein. J'ai un subfolder, qui veut dire sous-répertoire en anglais, slash subfolder.html, puisque j'ai ici un élément, une page HTML, qui est contenue dans ce répertoire-là. Donc je vais lui mettre ici subfolder, voilà, pour me rappeler que c'est ça, je sauvegarde, puis je rafraîchis ma page, je retrouve bien mon lien qui apparaît, quand je clique dessus, je me retrouve bien dans ma page subfolder. Quand je clique sur ce lien, j'ai fait la même chose, hein, je reviens bien en arrière. Si je vais dedans, on voit ici que j'ai un comportement un tout petit peu différent, puisque, alors pour ceux qui ne savent pas, hein, quand on navigue dans des répertoires, il y a une convention qui dit que si on précise rien, on cherche à partir du répertoire courant. On peut préciser le répertoire courant, le forcer entre guillemets, et mettre point, juste un point tout simple. Et quand on met point point, c'est pour dire qu'on veut revenir en arrière d'un répertoire. Donc je suis dans subfolder, je fais point point, ça revient en arrière, et puis je cherche à partir de cet endroit-là le fichier leçon5.html. Donc c'est comme ça que j'arrive à revenir sur ce répertoire. Donc cette navigation-là, elle se fait de manière assez simple à l'intérieur de ma page. Alors, si on vient un petit peu tout en bas, si je descends tout en bas de ma page HTML, de mon code HTML ici, on a défini un élément, je suis en bas, I'm at the bottom, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir une encre, cette fois-ci, mais pas une encre qui va nous permettre de naviguer à un endroit, on va définir une encre qui est une destination. Et alors, on l'a vu déjà hein, quand on était dans HTML5 ici, vous voyez que quand je clique sur cet élément-là, par exemple, je me retrouve dans l'adresse avec un dièse quelque chose. Et ce dièse quelque chose, il est là parce que je vais dans une page qui s'appelle textlevelsemantique.html, mais je ne vais pas à n'importe quel endroit dans cette page, je vais à un endroit particulier qui est celui qui contient l'élément qui m'intéresse. Et donc pour faire ça, pour définir un endroit dans une page, on utilise la balise A également, on lui donne un nom, et c'est ce nom qui est très important. Ce nom, je vais mettre entre guillemets, ici, je vais mettre bottom pour dire que je suis au bas, en bas. On peut mettre ce qu'on veut, hein, mais je mets ce texte-là. Et puis je vais remonter tout en haut, et je vais rajouter un nouveau lien, hypertexte. Donc je vais encore une fois copier tout ça. Voilà, hop, voilà. Et puis cette fois-ci, plutôt que de préciser une adresse particulière, je vais simplement être dièse pour dire, j'indique pas de page en particulier, c'est la page courante. Dans la page courante, je cherche bottom. Et donc, quand je fais ça, je vais ici mettre un petit texte, un petit peu trop vite là, voilà, aller en bas. Donc, ça permettra de savoir que je peux aller en bas. Donc je sauvegarde, c'est sauvegardé, je reviens ici sur ma page, je la rafraîchis, CTRL R, et je clique sur aller en bas, et là, automatiquement, le navigateur, il va aller le plus bas possible sur mon encre. Donc là, il l'affiche en bas, parce qu'il n'y a pas de texte ensuite, mais si jamais il y avait du texte, comme c'est le cas ici, vous voyez qu'il se positionne bien à cet élément-là, à cet endroit, hein, il se positionne bien ici, directement, et pas à un autre, puisque c'est celui-là qu'on a demandé. Donc ça permet comme ça d'avoir une seule page et de naviguer à l'intérieur très facilement, et puis ensuite d'avoir un lien, vous voyez ici, hein, c'est la même chose, hein, dièse bottom juste après, qui permet de dire, je veux aller au navigateur, je veux aller dans cette page, à tel endroit précisément dans la page. Et si ça existe, il le trouve, il va s'y rendre directement. Donc, alors jusqu'à présent, ce qu'on a fait, c'est que ça s'est ouvert dans le même onglet. Vous avez vu, je perds la page dans laquelle je suis. Et dans certains cas, on a envie de dire, bah tiens, va à tel endroit pour faire une recherche, par exemple. Par contre, ouvre-le-moi dans ailleurs. Pas dans le même onglet, pas dans le même navigateur. Ouvre-le-moi dans une autre instance. Pour faire ça, on peut lui indiquer la cible. Donc on a target ici. Et on peut lui dire, je veux que tu t'ouvres dans un nouvel élément. Et c'est ce nouvel élément, c'est blank. Donc ça, c'est une convention qui va indiquer au navigateur de l'ouvrir dans une nouvelle page. Si notre navigateur, par défaut, il ouvre les nouvelles pages dans un nouvel onglet, ça va s'ouvrir dans un nouvel onglet. S'il s'ouvre dans une nouvelle page par défaut, ça s'ouvrira dans une nouvelle page. Donc ça ouvrira un nouveau navigateur. Donc là, je sauvegarde, je reviens ici, je vais rafraîchir ma page. Alors là, évidemment, comme j'ai ça dans l'adresse, il revient toujours en bas. Je vais l'enlever, vous allez voir, hein, si je fais ça, il revient bien tout en haut. Et donc maintenant, si je clique sur bing.com, il s'ouvre automatiquement dans un nouvel onglet, j'ai pas besoin de le faire moi-même. Ça a deux intérêts. Le premier, c'est un intérêt pour le lecteur, qui ne perd pas l'endroit où il est dans la page, à un moment donné, puisqu'il garde à cette instance ouverte, il perd pas cette page-là. Et le deuxième intérêt, c'est pour vous aussi, c'est que il ne part pas de votre page. Si votre objectif, c'est que le lecteur reste dans votre page le plus longtemps possible, il vaut mieux ouvrir les éléments ailleurs, comme ça, il n'oublie pas qu'il était à l'origine dans votre page en train de lire votre texte à vous, et donc il va y rester de cette manière-là, puisque dès qu'il ferme cet onglet, il reviendra sur cette page. Donc ça, c'est un élément qui est important, parce que c'est réellement quelque chose qui est très intéressant. Alors on a d'autres choses qui sont également importantes. Hein. C'est le fait que je vais aller sur Bing pour faire une petite recherche, et puis je vais rechercher par exemple Microsoft, voilà, je fais entrer, et donc vous voyez que dans mon adresse ici, j'ai des choses qui apparaissent. Donc j'ai search, enfin jusqu'ici, c'est ma page, il n'y a pas de point HTML, mais... imaginez qu'il y en a un, c'est un peu le même principe. Et puis j'ai un point d'interrogation, puis derrière j'ai des paramètres. J'ai Q égale quelque chose, et QS égale quelque chose, et forme égale quelque chose, etc. Et ça continue comme ça jusqu'au bout. Ça, c'est ce qu'on appelle une query string. Donc si je vous l'écris quelque part, je vais prendre un notepad, faire les choses très simplement, hein. On va pas s'embêter à faire des slides. Si je clique correctement, je vais agrandir un petit peu tout ça. Allez, donc je vais ouvrir plusieurs fois. Format. Police. On met ça en police un peu plus grande. Donc ça s'appelle une query string. Voilà, tout simplement. Donc le principe, c'est réellement que j'ai ma page. Donc ma page, point HTML, point d'interrogation, et puis les variables qui vont derrière. Donc on peut avoir Toto égale Tata, et une autre variable qui sera Titi égale Tutu, par exemple. Et on peut continuer comme ça. Ce qui fait que le navigateur, quand il envoie sa demande au serveur web, il va rajouter dans la demande ces paramètres-là. Et ensuite, on ne peut rien en faire pour l'instant, nous, puisqu'on est en train de faire de l'HTML statique côté client, entre guillemets. Mais on pourrait très bien imaginer que la page HTML, elle est en fait construite par le serveur, et que ce serveur, il prend ces éléments-là, et qu'il y a du code qui existe côté serveur qu'on écrit en ASP.NET, en PHP, en Node.js, en ce qu'on veut, qui va prendre ces éléments et réagir en fonction de ces éléments. Par exemple, on pourrait très bien dire que, en fait, cette page-là, c'est plutôt article.html, en imaginant que c'est un site qui affiche des articles de presse, par exemple. Et c'est toujours la même page qui affiche un article, sauf qu'on lui passe un paramètre, le numéro de l'article. Donc on aurait ID pour identifiant égale 2. Et donc, on indique comme ça que c'est cette page-là que je veux. Par contre, l'article qui doit s'afficher dedans, c'est le numéro 2. Et là, il y a quelque chose à faire côté serveur pour que ça génère la bonne page avec le bon contenu. Ça sort évidemment du cadre de ce cours, mais c'est important de savoir que c'est pour ça qu'on a des choses qui sont parfois derrière cette adresse, qui est derrière cette page qu'on requête directement. Alors on a quelques petites choses pour terminer. La première, c'est le. Donc on avait ces fameuses query strings, et je vais retourner, ça sera plus simple, directement ici. Ou pas d'ailleurs, enfin vous pourrez aller voir dans w3.org si vous voulez, mais sur un élément, donc sur un élément HTML, on peut utiliser des choses en plus. Donc on a classe ici, où on peut indiquer quelque chose, donc hello par exemple, voilà, slash p, et puis on peut également définir un identifiant égal, je sais pas, bon, paragraphe 1 par exemple, et un nom, name, égal. Paragraphe 1 également. Donc ça, le nom peut être le même. Donc les attributs, hein, rajoutent une information supplémentaire à l'information de base qui dit que c'est un paragraphe. La classe, c'est quelque chose qui sera utilisé pour faire une sélection. Donc quand on a une classe, c'est une classe qui peut s'appliquer à plusieurs éléments. Donc on peut avoir la classe Hello qui va s'appliquer à tous les paragraphes ou à 3, 4, 5 paragraphes dans une page HTML. Et alors qu'un ID, lui, et un nom d'ailleurs, sera unique dans la page. Donc on peut le faire, le navigateur ne va pas vous embêter si vous avez deux éléments avec le même ID. Par contre, un ID est censé être unique, et on peut l'exploiter cet ID en JavaScript. Vous pouvez regarder d'autres cours sur Microsoft Virtual Academy qui vous parleront de JavaScript, mais ça peut être utilisé en JavaScript pour identifier un élément particulier et faire un traitement dessus. Et donc, ça c'est l'ID, et pour le nom, qui est également un nom unique, ce nom-là sera plutôt utilisé côté serveur, puisque on aura un module qui sera dédié à ça, mais on peut créer des formulaires en HTML pour renvoyer quelque chose côté serveur, pour avoir un traitement, par exemple, s'inscrire à une newsletter ou ce genre de choses. Et bien ces éléments-là, ce qui est passé au serveur, pour savoir que le texte était situé dans tel endroit, que par exemple le nom de la personne c'était. Si je le fais ici, que je mets name plutôt que de mettre ID, name égale quelque chose, c'est ça qui sera envoyé côté serveur et qui sera utilisé côté serveur. On en reparlera quand on parlera des paragraphes. Donc il faut bien avoir ça en tête. C'est très important puisque c'est ce qu'on utilisera quand on fera de la mise en forme. Puisque si par exemple on veut mettre en forme tous les paragraphes, ben, on pourra dire tous les paragraphes. Mais si on veut en mettre en forme que certains, ben, on va utiliser l'ID, on va utiliser les classes pour mettre en forme qu'un certain, un sous-ensemble de ces éléments-là. Grâce au sélecteur, mais on reviendra dessus quand on parlera de CSS un peu plus en détail. Et puis finalement, on va également retourner dans w3.org ici, et puis je vais chercher, alors je vais retourner sur w3.html, enfin slash HTML, et puis je vais chercher span, parce que j'en ai pas parlé tout à l'heure et que c'est important quand même. L'élément span, c'est un élément qui permet de définir un bloc de texte, si je clique correctement dessus, voilà, je vais enlever la barre de recherche. Donc ça permet de définir un élément de texte qui n'a aucune signification en soi. Donc le principe c'est... Son seul objectif, c'est ce qui est marqué ici, c'est de représenter ses enfants. Donc ça permet de grouper des éléments, du texte, des encres, enfin tout ce qu'on a envie. Et son objectif principal, c'est de pouvoir regrouper ces éléments pour y appliquer une mise en forme particulière. Alors qu'en fait, ces éléments n'ont pas forcément une signification particulière. Le span ne veut pas forcément dire quelque chose, ça veut absolument rien dire, ça n'a pas de signification sémantique. Mais c'est utilisé pour grouper du texte et des éléments ensemble, de manière à pouvoir leur appliquer un style. Donc on va définir une classe, par exemple, sur ce span, ou un ID, si on veut, et puis en CSS, on pourra y appliquer un style particulier pour définir que tout ce qui se trouve là-dedans aura un affichage particulier. Donc c'est utilisé, un exemple ici, vous voyez qu'on a ici deux balises dont je n'ai pas parlé, pré et code, on en parlera un peu plus tard, avec ici span classe égale quelque chose. Donc on voit que ça permet de dire que ça c'est un identifiant, c'est un élément qui sera mis en forme d'une certaine manière, donc c'est le J qui est là, puis on a un span, un autre avec le même, et puis si on en trouve d'autres potentiellement, donc c'est toujours ident partout, si ici on a un span classe égale keyword, donc ça c'est un mot-clé, donc ça aura peut-être une couleur différente qui sera définie dans la feuille de style CSS directement. Voilà, donc on a fait un petit peu le tour de tout ce qu'on peut faire, ou en tout cas les éléments principaux qu'on peut utiliser pour définir la structure du texte. On a également vu comment on peut faire pour définir des liens, soit vers la même page, soit vers d'autres pages, soit vers des pages externes à notre site web. Et donc c'est la base, puisque l'origine, hein, le Internet s'est constitué énormément de textes, c'est principalement pour ça, c'est fait pour ça à l'origine, et donc c'est très important de démarrer par ça et de bien comprendre ça. Ce que je vous invite à faire, c'est de reparcourir ce que vous avez créé pendant le module 2, et puis d'essayer de comprendre un petit peu ces différents éléments. Vous allez voir que vous aurez un autre œil, et vous comprendrez un petit peu différemment ce qu'on avait créé à ce moment-là. A bientôt pour le module suivant.